Je vais lire Néhémie chapitre 4, du 1er au 4e verset. Lisons ensemble. Parole de Néhémie, fils de Hasalia, au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont à ruine et ses portes sont consumées par le feu. » 4. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Nous allons au chapitre 2 du 1er au 5e. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxe, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être que chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. » Et j'ai répondu au roi, « Si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Nous allons sauter au 9e jusqu'au 12e verset. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, les Horonites et Tobija, le serviteur ammonite, les a appris eurent un grand de plaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles à ruine, Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu, j'ai passé près de la porte de la source et de l'état du roi et il n'y avait point de place par où puis passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille et puis je rentrais par la porte de la vallée et je fis ainsi des retours. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, Vous voyez, le malheur est à où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Nous allons au chapitre 3, du 1er au 5e verset. Tip, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et apposèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaku, fils d'Amri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et apposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshazabel. À côté d'eux travailla Sadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jérémie, vous continuez la lecture?
Oui, ce sera à partir de Jérémie chapitre 4, les versets.
Du premier verset au 13e.
Du premier verset au 13e, merci. Néhémie chapitre 4, du premier au 13e verset.
Au 13e.
Au 13e verset. Oui. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierres. 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont enfoncé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, parole du Seigneur.
le 17e verset, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Nous évitons le serviteur de Dieu pour le message.
Seigneur Dieu, nous sommes devant toi. Te disons merci parce que tu nous accordes cette occasion de parler de toi. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui parles à ton peuple. Parce que si moi je parle, alors je vais communiquer mes sentiments qui ne vont pas édifier ton peuple. Je veux, Seigneur, que tu leur parles parce que c'est toi qui les aimes, c'est toi qui les as invités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore lire Jean chapitre 17. Jean 17, le 15e verset, ça dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter dans le monde, mais de les préserver du mal, seule la parole de Dieu. Je suis très heureux de me tenir devant vous cet avant-midi. Et nous allons parler de thème intitulé « Marcher avec le Seigneur en période de crise ». Marcher avec le Seigneur en période de crise. Cet avant-midi, nous voulons vous montrer comment est-ce que nous devons marcher, nous tous, comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur en période de crise. La prière de Jésus-Christ que certains ont raison de trouver embarrassante, c'est celle qu'il a prononcée pour ses disciples à Jean chapitre 15, là où nous venons de lire. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter dans le monde, mais de les préserver du mal. Dans ce passage, Jésus ne demande pas à Dieu de nous enlever dans ce monde de difficultés, dans ce monde de crise. Soit de créer un monde spécial sans crise, sans difficulté. Non plus, il ne demande pas à Dieu de supprimer le mal. Le mal qui nous traumatise, le mal qui nous inquiète, lui ne dit même pas qu'on le supprime. Mais il veut que nous soyons préservés de ce mal-là. Heureusement, Paul, à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, nous dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, il peut renchérir en disant que nous combattons dans la victoire. Il dit aussi que nous ne combattons pas pour la victoire. Alors, je vais vous rappeler, mes bien-aimés, que notre vie de chaque jour est constituée de grands moments, et que nous pouvons subdiviser à deux grands moments qui sont inévitables. En premier lieu, il y a des moments de joie, il y a des moments de paix, il y a des moments de stabilité, mais aussi il y a des moments de crise, des moments où on se demande si la vie va évoluer comment. On se demande si on va mourir. Donc, d'un moment de crise. Alors, un chrétien qui a une certaine maturité, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a deux moments et qui sait les distinguer. Il peut savoir dire, maintenant que vous me voyez, je suis à un tel moment. Soit c'est un moment de joie, un moment de stabilité. Mais le même chrétien là, c'est quelqu'un qui sait distinguer l'autre moment qu'il peut appeler le moment de crise. Et un chrétien mature, c'est un chrétien-là qui sait comment est-ce qu'il doit marcher avec le Seigneur pendant ces moments de joie, mais il sait aussi comment est-ce qu'il doit marcher avec le Seigneur pendant les moments de difficulté. Alors, nous devons vous outiller, mes chers amis. Nous, comme Église, nous devons vous outiller et vous montrer comment est-ce que vous devez vous comporter pendant le moment de crise. Il y a un comportement incrédule que moi je condamne et que nous devons condamner nous tous. C'est un comportement que nous devons décourager dans la vie de chrétien. C'est celui des gens qui présentent tout en noir. Ils présentent tout en crise. Il y a certaines personnes, si vous les voyez le lundi, ils te disent aujourd'hui, vraiment la crise est très grande. Vous les voyez une semaine après, ils disent maintenant, aujourd'hui, la crise est très grande. Vous les voyez un mois après, il dit, cette fois-ci, la crise est très grande. Et après une année, il dit, en tout cas, avant, on pouvait le dire, mais cette fois-ci. Alors, c'est un comportement que nous voyons, que nous observons parmi les chrétiens qui ne glorifient pas Dieu, que nous devons condamner et que nous devons décourager. Alléluia! Donc, je suis en train de chercher à vous dire que dans la vie, C'est vrai, il y a des moments de crise. Mais tous les moments ne sont pas des moments de crise, mes chers amis. Mais quand même, pour aujourd'hui, nous allons vous dire comment est-ce que vous devez vous comporter, comment est-ce que vous devez marcher avec le Seigneur en période de crise. Nous avons choisi de lire Néhémie pour qu'il nous enseigne parce qu'il est parmi le meilleur serviteur qui a marché avec le Seigneur en période de la grande crise de la déportation. Je vous propose de le lire en intégralité. Vous savez, on n'a pas le temps de le lire ici, mais à la maison, essayez de lire ce texte dans son intégralité. Lisez ce texte, s'il vous plaît. Lisez ce texte et vous allez y découvrir beaucoup de bénédictions. Nous allons seulement mettre l'accent sur les actions qu'a posées Néhémie pour tenter de trouver les solutions pendant une période de crise. La première action que j'ai vue et que je venais de lire dans la Bible, j'ai constaté que Néhémie est l'un des rares captifs qui sont allés se trouver par la grâce de Dieu dans la cour royale, mais qui a continué à passer et à planifier quelque chose pour sa vie la ruine. Néhémie, il est parmi les rares de ces gens qui, ayant été déporté, mais par la grâce de Dieu, il vient se retrouver dans la cour royale. Alors, dans l'aisance de sa jouissance, il a continué à penser à la vie. Il a continué à chercher à savoir comment les gens vivent. Et ça, c'est très positif pour ce serviteur de Dieu qui n'a pas oublié son Dieu, qui n'a pas oublié sa patrie, qui s'est trouvé dans la cour royale, mais avec ce Dieu, en train de penser toujours, en train de planifier quelque chose pour sa ville qui était à ruine. Moi, je vais vous informer qu'il y a des moments où nous avons honte de certains cadavres quand nous les amenons au village pour l'enterrement. On a honte de certains cadavres. Je me souviens, il y a un grand qui est mort ici à Goma que je devrais aller enterrer au village. Et quand je suis arrivé là-bas, il a fallu avant l'enterrement que je cherche à aller aux toilettes pour me débarrasser. J'ai demandé à un villageois de me montrer là où il y a la toilette. Et on va me montrer un hangar très sale. On me dit c'est ça la toilette. Et j'ai regardé le monsieur que je viens enterrer. J'ai regardé le village qu'il a à Goma, mais qui n'a même pas une toilette là au village. J'ai eu honte de ce cadavre-là. Et quand je l'ai enterré, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ce monsieur, ce grand monsieur que nous connaissons à Goma, il n'a même pas une toilette là où on va l'enterrer. N'est-ce pas une honte, mes chers amis? Il y a des gens, quand ils quittent au village, ils oublient tout. Ils ont leurs enfants ici, ils les interdisent même de parler la langue maternelle. Un enfant, tu arrives chez quelqu'un, tu parles avec lui, il ne te comprend pas, il te regarde. Donc, il ne connaît plus rien de son village. Il oublie ses frères. Il y a des gens qui sont ici, qui brillent, qui sont très bien. Mais si son papa arrive chez eux, la femme va dire, un féticheur est arrivé chez lui. Parce que c'était un papa très sale, pieds nus. Alors, un enfant ne s'imagine pas que quelqu'un de pareil peut arriver chez eux. Alors ils disent, papa, il y a un féticheur qui est arrivé ici. Et c'était papa de quelqu'un. Non, pose la question à celui qui est à côté de toi. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Vous êtes pressé souvent. Oh, vous savez, c'est un grand monsieur, on ne peut pas l'enterrer ici. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Où est-ce qu'on va t'enterrer? Non, vous savez, c'est un grand notable, nous devons l'amener au village. Où est le village dont vous parlez? Non, vous nous causez la honte. Vous nous causez la honte. Néhémie, alors qu'il était au palais royal, il continue à poser des questions. Il se dit, mais comment ça va là-bas? Et on lui a parlé de la vie de ce frère qui sont restés. On lui a parlé des portes qui sont costumées. On lui a parlé de tout. Et il se disait, non, il faut que je fasse quelque chose. Après ce message, je vais apprendre que tu as fait quelque chose au village. Alléluia. Cette fois-ci, je ne te dis pas de construire au ciel parce que tu ne veux pas cela. Mais je te dis de construire là où on va t'enterrer. Est-ce que ça, c'est mauvais aussi? Vous savez, mes chers amis, il y a des gens qui oublient vraiment. Seulement parce qu'il est déjà à ville, il ne sait plus ce qui se passe à Béni. Je les ai vus dans différents groupes. Ils ont oublié qu'on est en train d'égorger les gens là-bas. Et quand quelqu'un a vu une image de quelqu'un qu'on a égorgé, vous voyez beaucoup de réactions. Les gens qui disent, en tout cas, nous, on ne sait pas tolérer des choses comme ça. Bon, pour toi, ce sont des images. Mais pour quelqu'un, c'est son père qu'on est en train d'égorger. Et pour quelqu'un, c'est lui qu'on est en train d'égorger. Et toi, tu t'amuses seulement à dire non, des images comme ça. En tout cas, vraiment, il ne faut pas les envoyer dans les groupes. Mais tu veux qu'on les envoie où? On est en train d'égorger mon papa. Et moi, je t'informe qu'on a égorgé mon papa seulement parce que tu es allé à ville, tu es maintenant à Kinshasa, tu es maintenant à Paris. Tu me dis, en tout cas, ne me parlez plus de ça. Ah, mes chers, ambia ou Lucien, on a sa wakambiyo. Une autre chose que j'ai vue chez Néhémie, c'est que Néhémie et ses frères rescapés fournissaient un effort de comprendre leur situation et en parler entre eux partout où ils pouvaient se rencontrer. Néhémie, il a ça comme particularité. Il pouvait fournir un effort de comprendre la situation de chez eux. Il pouvait en parler entre eux partout où ils pouvaient se rencontrer. Quand la situation devient compliquée, mes chers amis, il faut en parler ensemble. Quand la situation est compliquée, ayez le moment d'en parler. Il faut l'étudier. Il faut chercher à comprendre de quoi il s'agit. Notre grande faiblesse aujourd'hui est que nous subissons tout dans notre vie comme des petits enfants. Même des grands intellectuels, vous les voyez continuer à subir les situations. Donc lui aussi vit comme si les choses doivent être seulement subies. En aucun moment tu ne verras quelqu'un en train de penser son avenir. En aucun moment tu ne verras quelqu'un en train de prévenir son avenir. Tu ne verras quelqu'un en train de prévenir les éventualités. Alors vous allez constater qu'il y a des malheurs qui nous arrivent comme par surprise. Alors que ce sont les choses qu'on devrait prévenir avant. Nous acceptons lâchement de mourir, on nous égorge comme des animaux. Et nous acceptons comme ça. Il n'y a personne qui réfléchit, il n'y a personne qui pense, qui ose penser. Alléluia. Il y a des moments où je parle avec les petits-enfants. Je leur dis, mais quand tu vas grandir, tu vas devenir quoi? Je constate qu'il ne comprend pas beaucoup. Quelqu'un qui est maintenant à deuxième année, c'est ce que vous appelez huitième aujourd'hui. Je dis, mais monsieur, tu vas faire quelle section? Il dit, bon, je vais choisir parmi les sections qui sont à mon école. Donc lui, il choisit seulement. Mais je crois que c'est la pédagogie qui est plus facile. C'est ce que je vais faire. Et quand il vient de finir la pédagogie, on lui dit, n'est-ce pas, tu dois aller à l'université? Il dit, oui, bon, je vais chercher l'université là où on paie moins cher. Donc, il rencontre des circonstances. Et quand il a terminé, on lui dit, tu vas faire quoi? Il dit, non, j'attends l'emploi. Bon, quelqu'un qui va manger. Mais n'est-ce pas, tu as fait la médecine? Tu ne me dis même pas que tu vas te créer l'hôpital. Il dit, non, en tout cas, j'attends ici. J'ai manqué quelqu'un qui va m'empocher. Et je trouve les filles, je leur dis, mais toi aussi, n'est-ce pas que tu es en train de grandir? Mais tu vas te marier quand? Elle dit, non, je suis en train d'attendre chez nous. Il n'y a personne qui me salue. Il ne planifie rien de son avenir. Il attend. On continue à attendre. Et nous grandissons en train d'attendre. Et nous vieillissons en train d'attendre. On continue toujours à subir. Il n'y a personne qui ose réfléchir. Je demande à ces mamans-là qui nous accouchent des jolis bébés. Je dis comment on appelle cet enfant. Il me dit son nom. Je dis ça signifie quoi? Il dit toi aussi. Tu n'as jamais vu ça dans une série. N'est-ce pas que c'est dans... Donc, même le nom de l'enfant, il ne connaît rien. Il ramasse seulement dans des séries de télévision. Il donne ça à un enfant, c'est tout. Donc, on ne planifie rien. On subit. Et après, bon, les choses nous arrivent. On ne pense pas, on n'étudie pas. Le troisième comportement chez Néhémie, et c'est que il a pris des moments suffisants de s'adresser à Dieu, de faire un deuil de plusieurs jours, de jeûner devant Dieu avant de poser n'importe quelle action. Beaucoup de chrétiens, en période de crise, en tout cas perdent de vie, qu'ils ont un père qui a le devoir d'abord de compatir avec eux, qui a le devoir de les défendre, qui a le devoir de les aider, qui doit s'occuper d'eux. Donc, il y a peu de chrétiens, quand ils sont en difficulté, qui pensent directement à Dieu. Vous savez, ça nous fait quand même la honte quand un fidèle de Goma Ville, tu apprends par des réseaux sociaux qu'il y a un fidèle de Dieu qui, de Goma Ville, a été endeuillé. Il n'a même pas parlé à aucun des pasteurs. Il a seulement pensé comment est-ce qu'on aura des cercueils, on va l'enterrer où, là où il ne connaît même pas. Ne sait même pas prononcer le nom de son village natal, mais il a quand même passé à ça parce qu'il est mort. Et il a tout planifié. Et on ne vous appelle qu'à la dernière minute, quand on dit, mais il faut quand même qu'il soit enterré dignement, il faut que les pasteurs soient là. Et c'est maintenant qu'on commence à vous appeler. Pasteur, tu es où? Mais nous voulons enterrer notre monsieur ici. Quand les gens sont en difficulté, ils ne passent pas à prier. Si tu lui dis, n'est-ce pas, tu es en train de dire que tu es en crise, tu as prié combien de fois? Il n'a pas prié. Nous cherchons des solutions ailleurs, loin de Dieu. C'est vrai, je ne saurais pas de considérer les efforts que nos églises sont en train de faire pour trouver la solution à la crise de notre pays. Mais je dois vous dire, mes chers amis, et je dois vous l'avouer, que nos efforts sont encore insuffisants, nous en tant qu'église. Nos efforts sont encore insuffisants. Je dois vous montrer que nous devons encore fournir des efforts. Je vais vous informer que nombreux pays qui sont passés par des crises comme la nôtre, ces pays ont trouvé des solutions grâce à l'intervention de l'Église. Ce sont les églises qui se mettent ensemble, qui essaient de réfléchir, qui pensent les solutions, et après, ils s'impliquent activement dans les sociétés de l'Église. Ils s'impliquent activement pour avoir des solutions. Les églises font tout pour mobiliser leurs membres. Ils mobilisent le gouvernement. Ils jouent un grand rôle dans la diplomatie. Parce que c'est nous qui avons les politiciens, c'est nous qui avons le peuple, c'est nous qui avons tout le monde. Donc tout le monde vient prier chez nous. Quand nous, les églises, on ne s'implique pas dans la société et on se limite à dire non, c'est ça la volonté de Dieu. Alors, on n'a pas la solution. Ici, chez nous, parfois, à l'église, certains pensent qu'on doit s'éloigner des réalités du monde et on doit interdire même de parler de la politique à la chair. Il y a quelqu'un qui vous appelle et dit « J'ai appris que tu es en train de parler politique à la chair. » Comme si on ne peut pas parler de la politique à la chair. Il faut qu'on en parle où? Il faut qu'on commence à en parler où? Le quatrième point, Néhémie, c'est quelqu'un qui a réussi à mobiliser le peuple autour des mêmes objectifs. Néhémie a réussi à mobiliser le peuple autour d'un objectif commun. Néhémie a réussi à mobiliser et les hommes politiques, et les hommes religieux, et les grands hommes, les masses populaires autour de lui. Il les a mobilisés. Si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir, il est en train de citer les noms de certaines personnes. Vous savez, notre grande faiblesse, c'est que notre ennemi a réussi à nous diviser à plusieurs groupettes sans aucun objectif de la vie. Il y a beaucoup de groupes. D'abord, nous sommes divisés à plusieurs religions. Et les plusieurs religions-là, il y a plusieurs communautés. Et les plusieurs communautés-là, encore on s'est dit, non, il y a des tribus. Même si nous tous, nous sommes de la Sebeka, il faut que tu me dises si tu es venu d'où. Et même parmi les tribus, nous cherchons aussi des familles. Nous disons, non, en tout cas, ils sont venus de quelle colline d'abord? Les gens de là, en tout cas les gens de là, vraiment. L'ennemi a réussi à nous mettre dans une confusion tellement qu'on est ensemble sans être ensemble. Et parfois, il nous utilise pour détruire les autres, il nous utilise pour nuire aux autres et il nous utilise pour tuer les autres. Et dans l'entretemps, quand il vient de nous utiliser pour tuer les autres, alors il présente cela, il dit non, cette fois-ci c'est votre frère qui vous a tué. Alléluia. Quand c'est un malheur qui est arrivé à quelqu'un, vous posez d'abord la question, il est de quelle église? Et si on vous dit qu'il est de la CBK, vous dites, bon oui, il est de quelle paroisse? Et si on vous dit qu'il est de ma ville, vous dites oui. Mais il est venu d'où? De Kaina, de Ouidji ou d'où? Et si vous dites qu'il est venu de Ouidji, vous dites à quelle colline précisément? Et si on vous dit qu'il est de telle colline, vous dites, de quelle famille encore? Et finalement, vous finissez par dire, il est qui dans la ville? Là, vous venez de l'individualiser, vous vous donnez raison de ne pas l'assister. C'est l'ennemi qui a fait cela, mes chers amis. Et finalement, nous sommes dans une confusion très inutile. Et malheureusement, ça ne profite pas à nous. Jamais on arrive à se réunir autour d'un objectif commun pour faire face à nos vrais adversaires. La conséquence est qu'on éteint le patriotisme à nous au profit du capitalisme. Il y a quelqu'un qui vous dit, en tout cas cette guerre-là, je l'observe à 2000 kilomètres. Il n'y en a pas au Congo. Il n'y a plus cet esprit du patriotisme. Il y a quelqu'un qui peut vous poser la question, il dit, bon, vous allez me payer combien si je vous vends le Nord Kivu? On lui donne de l'argent, il bouffe. Il n'y a plus de patriotisme. Non, vous savez, il y a quelque chose qui me surprend. Ici à Goma, on vend même les cimetières. Quelqu'un vous dit, vous me donnez combien pour que je vous vende le cimetière? Et on lui donne l'argent, il va le cimetière. Après un certain moment, un grand cimetière, vous voyez des buildings en train d'être construits. Et on ne se gêne pas. L'ennemi a réussi à éteindre le patriotisme à nous. Il a réussi à éteindre l'amour du prochain à nous. Il a réussi à diviser même les chrétiens et les frères. Il a réussi à nous diviser pour nous dominer, pour bien régner. Les autres choses de particulier que je dois évoquer ici est que Néhémie a réussi à identifier l'ennemi. Et il le citait par son nom. Il a dit, ça c'est Sanballat. Celui-ci c'est Tobija. Celui-ci c'est Gershom. Mais nous, on a honte de parler des noms des ennemis. On continue à les appeler des présumés. On continue à les appeler nos frères. On continue à les appeler. Mais les frères là, tu ne connais pas son nom. On laisse les gens continuer à s'entretuer alors que ces frères-là savent là où ils se rencontrent. Ils se partagent des repas. Ils se disent, bon, là, on t'a chingé la bangapi. Et ils nous mettent dans la confusion quand ils vont utiliser telle tribu. Alors nous commençons à nous entretuer entre nous parce que nous avons vu tel, alors qu'ils se connaissent. On ne sait pas parler, on ne sait pas appeler les chiens par son nom. On ne sait pas dire que ça, c'est Sanballat. On ne sait pas dire ça, c'est Tobija. On ne sait pas dire ça, c'est Geshem. Alléluia. Jusqu'à quand on va continuer à tâtonner? Le cinquième élément que j'ai aimé chez Néhémie, c'est que Néhémie n'était pas de ce genre d'hommes qui attendent les solutions d'ailleurs. Néhémie, lui, n'était pas de ce genre d'hommes qui pensent qu'il faut avoir des solutions qui viennent d'ailleurs. Notre grand malheur, c'est que nous pensons qu'il y a quelqu'un ailleurs, qu'il y a quelqu'un ailleurs de nous-mêmes qui a besoin de notre propre vie que nous. Alors quand nous sommes en difficulté, nous disons, mais si est-ce que tu as vu que je suis en difficulté? Quand nous n'avons pas à manger, tu dis, bon, est-ce que tu sais que je n'ai pas à manger? Et quand il n'y a pas de route, tu dis, bon, est-ce que tu sais que chez moi, il n'y a pas de route? Donc nous pensons qu'il y a des gens qui ont besoin de notre vie plus que nous-mêmes. Donc ce sont les gens qui doivent chercher des solutions à nos problèmes, à notre place, qui doivent nous aider à tout. Pourtant, nous oublions que notre malheur arrange certaines personnes. Quand nous sommes en difficulté, il y a certains qui jubilent. D'autres peuvent même souhaiter nous enfoncer au lieu de nous aider à se relever. Il y a d'autres qui peuvent souhaiter nous maintenir dans une situation de crise pour s'enrichir. Alors, nous pensons que ce sont les gens qui sont nos amis, alors qu'ils sont en train de nous effondrer davantage. Vous savez, il y a un événement que je suis en train d'analyser actuellement. N'est-ce pas? On a beaucoup publié que nous sommes entrés dans East Africa Community, n'est-ce pas? Oui, et quand on nous a parlé, on nous disait non, en tout cas, nous avons des avantages parce que nous allons chaque fois entrer et sortir dans certains pays sans visa. C'est ce qu'on nous a dit. Mais qui des voyageurs est entré et retourné sans visa? Mais le vrai sens de ce qu'ils ont fait, c'est que ce sont eux qui voulaient que nous puissions y entrer pour que leurs militaires entrent et sortent sans aucun contrôle. Et nous sommes contents, nous pensons que bon, ils viennent nous aider. En tout cas, y a des gens qui nous aiment plus que nous-mêmes, vous pensez. En tout cas, et quand ils nous regardent, ils voient notre manière de réfléchir, ils s'étonnent. Au lieu de s'alarmer et continuer à accuser le monde, la communauté internationale. Mais Néhémie, lui, sensibilise son peuple. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Il ne dit pas, allez dire aux gens, allez dans la rue, allez faire. Il dit, lèvons-nous et faire comment? Et bâtissons. C'est ça, Néhémie. Néhémie ne dit pas, où est le gouvernement? Où est tel ou tel autre? Non. Au chapitre 4, quand il voit les ennemis en train de les entourer, il dit, mes chers amis, nous sommes en train de construire les murailles et les amis sont en train de nous entourer. Il dit au maçon, désormais tu prends une trielle et tu prends quoi? Tu prends une arme. Et il dit à celui qui porte la pierre, tu dois mettre la pierre sur la tête et dans l'entretemps tu fais comment? Et il a cherché les épées, il a cherché les lances. Ça, je suis en train de lire dans la Bible. Je lis dans la Bible. Et si tu veux, je vous ai dit de lire Néhémie. Je suis en train de m'imaginer que si lui était ici chez nous, il pouvait dire aux gens de Béni, ne fouillez pas. Mais allez dans vos champs, mais dans l'entretemps, tu prends là où et tu prends quoi? Une arme. C'est tout. Au lieu de continuer à pleurer, oh, nous avons vidé nos champs, on a incendié tout. Mais bon, tu dois pleurer comment? Lui, il pouvait dire, monsieur, tu prends ta houe, tu continues à cultiver, et dans l'entretemps, tu fais comment? Tu prends ton arme, c'est tout. Non, je dis ce que Néhémie devrait faire. Je ne dis pas que c'est ce que moi je dois faire. Vous savez, notre Dieu, c'est quelqu'un qui aime les gens qui agissent à l'instant sans plus réfléchir. Non, notre Dieu, c'est celui qui aime les gens comme Moïse. Moïse qui rencontre les gens en train de blesser leurs frères, en train de les taquiner, il prend la décision, il prend et il fait tout ce qu'il peut faire et il enterre dans le sable. Et Dieu dit, c'est celui-là que moi je vais utiliser pour libérer mon peuple. Dieu, c'est celui qui aime les gens comme David, qui arrive là au front, là où on est en train d'injurier Dieu, il trouve les gens en train de tourner les pouces, en train d'écouter les bêtises de Goliath. David dit non, je ne vais pas rentrer, je dois changer ma mission. Je ne rentrerai pas sans la tête de qui? De Goliath. Et on commence à lui dire non, nous n'avons pas d'armes pour combattre les rebelles. Il dit ça va, moi j'ai mon javelot. Et il prend ses dispositions. Et il dit Goliath, et dit c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et vous tournez des pouces et vous pleurnichez et vous faites beaucoup de recommandations comme vous apprenez beaucoup de français et vous les étalez et dans l'entretemps on continue à vous égorger. Et même les autres là qui sont allés en ville quelque part, quand ils arrivent ici, s'il y a quelques initiatives qu'on a prises, ils commencent à dire non, attention. Vous voulez jouer le jeu de l'ennemi. Et comme si lui aussi qui vient nous observer en train de nous égorger, c'est lui qui joue le jeu de qui? Donc c'est lui qui joue le jeu de notre ami. D'abord, pour venir voir comment est-ce qu'on nous égorge, vous savez combien on lui donne comme frais de mission. Pour venir seulement nous voir comment on nous égorge. Et quelqu'un comme ça, c'est lui qui va te dire, non, vous voulez jouer le jeu de l'ennemi. Et toi, tu acceptes. Et tu mets ta tête, on t'égorge. Vous savez combien d'églises on a fermé. Il faut lire les rapports de l'Assemblée générale. Et vous allez continuer toujours à écrire. Vous allez continuer toujours à faire des rapports. Alléluia. Néhémie, c'est quelqu'un qui dit non. Nous devons nous lever et faire comment? Nous devons nous lever et bâtir. Alléluia. Nous devons nous lever et bâtir. Et il a lui-même essayé de prendre la disposition. Je dois vous dire, mes chers amis, que Dieu a besoin de chercher à lire sa parole et marcher avec lui en période de crise. Actuellement, mes chers amis, nous ne sommes plus parmi les gens qui doivent continuer à s'alarmer. J'ai vu beaucoup de gens en train de dire, non, vous savez, notre ministre de Défense, il est allé chez Poutine en Russie. Moi, j'ai dit, est-ce que là, en Russie, il y a des dieux? Au lieu de faire ce que les Russes font ici, et vous allez chez eux. Et ils vont vous donner les armes. Et quand les armes vont arriver ici, on va les donner à l'ennemi. Vous allez commencer à pleurnicher. Que non, nos armes que nous avons enlevées à Russie, et nous avons vraiment désinfiltrées. Déjà, on a trouvé les tenues de nos militaires entre les mains de l'ennemi. Mais c'est quoi ça? Et les gens là, qui se disent faire de bonnes écoles. Il n'y a pas quelqu'un qui sait que la matière qu'on utilise pour fabriquer ces armes, c'est une matière qu'on enlève où? Au Congo, n'est-ce pas? Alors quand on fait l'embargo des armes, les armes qu'on a fabriquées par la matière qui est venue de chez nous, nous aussi on fait l'embargo de cette matière-là. Comme ça, on voit s'il faut faire l'embargo des armes qu'il faut fabriquer avec quoi. Mais les grâces intellectuelles qui sont là, il y a personne qui essaie de réfléchir et qui peut vous dire, bon ça va, faites votre embargo. Nous aussi, on fabrique nos armes. Et nous allons nous défendre nous-mêmes. Il faut toujours aller à Russe, il faut toujours aller là-bas et commencer à crier. Et nous, il y a vraiment une complicité, il y a ceci. Vous savez, je vais vous choquer un peu, mais vous allez m'excuser parce que j'en ai l'habitude. Il y a un grand chimiste que j'ai rencontré. Je lui ai posé la question de dire, mon cher frère, n'est-ce pas, il y a des jeunes garçons qui sont en train de nous dire qu'ils ont des antibales. Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que toi, chimiste, tu as eu le temps de faire une étude avec tous les chimistes là pour savoir cette molécule-là? Comme ça, si tu sais cette molécule-là, tu vas nous dire cette plante. Nous allons inviter aussi les agronomes qui vont planter ces feuilles-là. Et nous allons aussi demander aux hommes d'affaires de financer ces projets. Et on va distribuer les antibales à tout le monde, et tous ceux qui veulent. Et là, il dit, non, mais ce sont les gens démoniaques. Mais ce sont les gens démoniaques, et toi, tu ne l'es pas. Parce que moi, je connais sa vie, je connais son comportement. Est-ce que c'est lui qui va me dire qu'il est plus que ces gens-là, au lieu d'utiliser la tête que Dieu lui a donnée? Et il se limite comme ça. Vous savez, depuis un certain temps, moi j'ai vu comment est-ce qu'on a excommunié quelqu'un, parce qu'il a pris le produit des herboristes. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que c'est normal, n'est-ce pas? Parce qu'on a fait une étude scientifique. Mais toutes ces écoles-là qui nous disent, non, nous sommes les écoles de qualité, nous sommes ceci. Et si vous demandez à quoi votre école est de qualité, ils disent, parce que nous payons cher. Vous savez, ici à Goma, l'école de qualité, c'est l'école où on paye cher. Si vous leur dites, est-ce que vous pouvez nous fabriquer les armes? Ils disent, non, ça c'est pour les Russes. Bon, à quoi cette école est de qualité? Et de grands intellectuels, vous les voyez en train de se bousculer pour avoir de la place là-bas. Parce qu'il y a une école de qualité. Mais cette école de qualité, c'est là où on paye cher. Et ça forme beaucoup de chômeurs. On continue à produire des chômeurs alors que les gens nous dérangent qui sont en train de faire des formations de qualité. Quelle qualité vous êtes en train de parler? Mais nous devons utiliser nos têtes. Néhémie dit, lèvons-nous et faisons comment? Et bâtissons. Mes chers amis, tu peux ne pas écouter tout ce que je donne comme commentaire, mais je te supplie quand même d'aller lire les livres de Néhémie. Parce que si tu meurs sans lire ces livres-là, quand tu seras devant Dieu, Dieu aussi va te poser la question, est-ce que tu avais lu les livres de Néhémie? Tu dis oui. Alors on t'a égorgé comme ça alors que tu as lu les livres de Néhémie. Tu dis oui. Elle dit non, en tout cas, tu ne peux pas aller au ciel. Vraiment. Quelqu'un comme toi? Non. Que Dieu bénisse sa parole.